information. Et on se reparle dans quelques instants sur l'antenne d'Europe 1. Ça
D'accord,
vous va?
Pas de problème, Valérie.
À tout de suite.
À tout de suite. À tout de suite.
Carillon d'Europe 1, il est minuit. On retrouve Guillaume Lariche pour les informations. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Une enveloppe de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Mesure validée ce samedi à Washington par la Chambre américaine des représentants. Sur cette somme, 61 milliards va être attribué à l'Ukraine et d'après la CIA, Kiev a vite besoin de l'argent sous peine de perdre la guerre contre la Russie avant la fin de l'année. Mais avant d'envoyer justement cette enveloppe, le Sénat américain doit encore dire oui. Réponse probablement mardi prochain. Les sénateurs se pencheront également sur un texte demandant à TikTok de rompre avec sa maison mère chinoise, et ce sous peine de voir l'application interdite aux États-Unis. Les autorités américaines craignent que la plateforme offre à Pékin la possibilité d'espionner et de manipuler surtout ses 170 millions d'abonnés américains. En Israël, plusieurs ambassadeurs, dont ceux de la France, du Japon ou bien encore de la Corée du Sud, sont convoqués ce dimanche par le ministère israélien des Affaires étrangères. Ils vont devoir expliquer pourquoi leurs pays ont voté en faveur de l'adhésion des Palestiniens aux Nations Unies. Décision qui intervient un petit peu plus de 6 mois après les attaques du 7 octobre dernier dans l'État hébreu par les terroristes palestiniens du Hamas. La garde à vue est prolongée pour le sexagénaire soupçonné d'être entré ce vendredi dans le consulat d'Iran à Paris avec des fausses grenades. Le parquet souhaite comprendre ses intentions alors que ce même homme a déjà été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir mis le feu à des pneus devant cette même ambassade d'Iran. C'était le 9 septembre dernier. L'ancien prothésiste né à Téhéran a justifié son acte par son opposition au gouvernement iranien. Une marche contre le racisme et aussi l'islamophobie aura lieu ce dimanche après-midi à Paris. Départ 14h du Trocadéro avec une cinquantaine d'organisations comme LFI ou encore le NPA. Le syndicat Alliance Police s'attend à un rendez-vous tendu, musclé, puisque ce défilé devrait aussi s'opposer aux forces de l'ordre. À cette semaine, jour pour jour, des élections européennes en France. Seuls 38% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022 voteront la France insoumise. Résultat du sondage Opinionway pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. Si la France insoumise compte 8% d'intention de vote dans cette enquête, le Parti Socialiste se classe en troisième position avec 12% derrière le Parti de la Majorité ou encore Rassemblement National qui caracole en tête. Le PSG n'a pas brillé ce soir. Défaite de son club de handball en finale de la Coupe de France contre Nantes qui remporte son troisième trophée. Défaite aussi des footballeuses parisiennes à Lyon en demi-finale de la Ligue des Champions, 3-2. Match retour dimanche prochain au Parc des Princes à partir de 16h. Chez les hommes, hasard du calendrier de la 30e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Lyon ce dimanche soir en clôture. Ce samedi, Rennes s'est imposé à Nantes 3-0 et Lens a battu Clermont 1-0. Les sports mécaniques à présent avec les 24 heures du Mans Moto. On en est quasiment à mi-parcours, il reste encore 15 heures. Actuellement, Yamaha est en tête avec 323 tours enregistrés, suivi par la BMW aussi. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'élancera ce dimanche au volant de sa Red Bull à la première place du Grand Prix de Chine. Départ à 15h, heure de Shanghai. Il sera à 9h, heure de Paris. Europe 1, minuit 3 à la seconde près. Je vous souhaite une très douce nuit avec la libre antenne de Valérie, tout aussi douce.
Oh, merci Guillaume. Et moi, je vous souhaite de doux rêves alors. Restons dans la douceur, ça fait du bien et dans la joie. Merci, à demain.
À demain.
Europe 1, 22h, 1h.
La libre antenne.
Valérie Darmon.
Soyez sur la route, en route vers le soleil, pourquoi pas, ou dans votre canapé confortablement installé. Merci de nous écouter sur Europe 1 et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre surtout. Et n'hésitez pas à composer, si vous le pouvez, le 01 80 20 39 21 ou à nous envoyer un SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit ou encore à nous écrire à libreantenne@europe1.fr. Julia, on était en train de parler des idées préconçues de la société qui vous renvoie l'image d'une femme sans enfant qui, je vous cite, aurait échoué. parce que vous le vivez comme un échec. Donc moi, je vous suggérerais d'en parler à vos amis en tête à tête, en signifiant effectivement que vous, parfois, c'est compliqué d'en entendre parler un petit peu trop, parce que ça vous renvoie effectivement le fait que vous n'êtes pas maman. Mais comme le dit Anne, et comme elle l'a écrit pendant le flash de Guillaume, est-ce que ces gens-là sont dans la norme ? Vous savez, Julia, nous ne sommes pas obligés d'être mariés avec des enfants pour avoir une vie bien remplie. Ce ne sont que des préjugés. Voilà. Donc, moi, je vous suggère, Julia, de bien remplir votre vie. Qu'est-ce que vous faites pour remplir votre vie aujourd'hui ?
Là, pour le moment, pas grand-chose. Je n'ai pas, je n'ai pas d'activité sportive. Je suis plutôt casanière là en ce moment. Je suis en mode casanier. Je mets un petit peu d'ordre dans ma vie, on va dire. Comme ce fameux ménage du printemps.
Oui.
Mais c'est un ménage de printemps dans ma vie.
C'est la très bonne période en plus là. Ça va être la Pâque juive la semaine prochaine où on fait justement un grand ménage de printemps.
D'accord.
Intérieur et extérieur. Et c'est aussi la Pâque,
c'est
bien sûr.
Hein, c'est intérieur et extérieur. J'ai besoin de faire un grand ménage. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'activité. Mais pour cet été, je vais essayer de me programmer même si c'est pas très loin, un petit voyage, un week-end, je m'occuperai de moi cet été.
Oui, c'est important de remplir justement votre vie, hein, comme le disait Anne tout à l'heure au 739-21. Voilà, de vous mettre des petits buts, des petits objectifs. Il existe d'ailleurs, je crois, des sites où vous pouvez aussi partir avec des personnes célibataires. Il existe des clubs pour célibataires aussi, où vous pouvez aller. Hein, et c'est des clubs comme des clubs de vacances où les familles vont. Mm-hmm. Donc, on peut rencontrer des gens. Ce n'est pas forcé que ce soit malsain, hein, d'ailleurs, je le dis en passant.
Oui, tout à fait.
Voilà, mais il y a plein de manières aussi de remplir sa vie, même en étant seule, hein, de toute façon, de plus en plus aujourd'hui. Faut-il se l'autoriser.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que je cherche, que je m'intéresse un peu plus, voir ce qui se fait.
Et que vous osiez, Julia. Vous êtes prête à oser ?
Oui, oui.
Ah, ben voilà, ça c'est important. C'est comme tout à l'heure Fabrice qui nous dit qu'il est prêt à arrêter les addictions à plus que 10. Voilà, ça c'est le bon signe. Vous me dites oui, oui. Donc si vous le dites avec tant de détermination, les choses vont se présenter. À vous aussi.
De mettre du nouveau dans mon quotidien
Vous n'avez pas du tout d'amis. Vous n'avez pas, pardon de vous interrompre, excusez-moi. N'avez pas du tout d'amis célibataires.
Non, tout le monde est tout le monde est en famille. Tout le monde est en famille autour de moi. Tout le monde est en couple et en famille autour de moi.
Donc c'est pareil que pour Fabrice, il faut faire des activités pour rencontrer une nouvelle personne.
Oui. Oui, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Mais je me suis pas, je me suis pas intéressée encore, j'ai pas cherché. Mais je suis prête à le faire, oui.
Oui, c'est ça qui va changer parce que les choses dans votre vie, parce qu'effectivement, ces gens-là vont être un peu comme vous, donc ce sera plus facile pour aller boire un verre à n'importe quelle heure parce qu'il n'y a pas de contraintes tout simplement, pour se planifier un week-end. Et en même temps, quand on fait les choses seules, bizarrement, on rencontre beaucoup de monde.
Quand on fait une activité, c'est-à-dire quand on s'inscrit pour des activités, pour des
quand
sorties...
Quand on voyage seul, et d'ailleurs j'incite les auditrices et les auditeurs qui ont fait cette expérience, parce que souvent ça fait très très peur. de voyager seul.
Moi, ça me fait peur, oui.
Voilà, ça fait peur. Mais quand on y est, c'est quasi à 100%. On peut témoigner du fait qu'on rencontre plus de personnes quand on est seul que quand on est justement à deux. Alors, en couple, c'est complètement différent. On vit une autre histoire, on a cette chance de pouvoir partager, oui. pour certains d'entre nous, quand on a besoin d'être dans le partage. Hein, certains auditeurs disent qu'ils sont très bien tout seuls, et c'est tant mieux. Le principal, c'est d'être serein et de vivre bien la situation que la vie nous propose. C'est ça le principal. Mais quand on voyage seul, on rentre forcément en connexion.
D'accord.
Je vous assure que c'est une réalité. Au départ, on a très très peur de prendre l'avion tout seul. On se dit même que c'est peut-être un peu triste, etc. Mais si on va un peu dans un club, des choses comme ça, on va finir par rencontrer des gens qui sont seuls aussi. Ou alors on va rencontrer une famille, on va un petit peu discuter, et on va vite se sentir moins seul.
Oui, après, il faut avoir des aptitudes à rentrer en lien. Il ne faut pas être timide et réservé.
Je crois qu'il faut faire un peu confiance à la vie. Regardez là ce soir, je ne sais pas si vous étiez un peu ému en début d'entretien, mais là on voit que vous avez un gros capital sympathie. Vous rentrez très bien en lien.
Oui, mais parce que vous avez une bonne écoute.
Oui, mais vous savez, quand on est au bord de la plage, dans un club ou au bord d'une piscine, on a une bonne écoute, hein, avec un petit cocktail.
Oui, aussi.
Voilà. On a une Anne aussi qui nous dit là, qui renvoie un petit message. Elle dit il faudrait surtout que Julia cesse de penser qu'elle ne mérite pas. Bien sûr que non, ceci fait partie de notre histoire. C'est des histoires de transgénérationnelles et des histoires aussi de blessures d'enfants. Effectivement, sur le fait de ne pas avoir eu d'enfants peut-être. Que la vie ne vous ait pas fait ce cadeau. Peut-être que ça remonte à des blessures. Effectivement, d'enfant. Et Anne dit que vous le vivez peut-être comme une tare, le fait de ne pas avoir d'enfant.
En fait, c'est toujours cette injonction qui fait que je n'ai pas réussi à me dire que je n'ai pas réussi à passer à autre chose assez rapidement, en fait. Il y a quand même une injonction, quand on est en société, quand on est en réunion, réunion de groupe, que ce soit pour un anniversaire, un mariage, une cérémonie ou un stage ou des vacances. Il y a un moment donné, on sent que la femme qui est valorisée, c'est pas la femme qui s'assume, qui fait carrière, qui est autonome. On sent que la femme qui est valorisée, c'est la femme qui a construit. Et cette injonction-là, elle existe en fait.
Mais on peut se libérer des injonctions. D'ailleurs, c'est le travail thérapeutique, on se libère des injonctions parentales. Alors on peut se libérer des injonctions sociétales.
Oui, tout à fait. De toute façon, j'ai pas le choix.
Voilà.
Si j'écoute les injonctions,
Exactement.
Je ne vis
plus. Vous allez être dans l'immobilisme, et c'est surtout pas ce qui est demandé par la vie. Donc, vous n'avez pas d'autre choix. Donc, moi, ce que je vous suggère, Julia, c'est déjà de formuler auprès de vos amis, et ensuite de finir de mettre de l'ordre, comme vous l'avez dit, parce que la nature ayant horreur du vide, si on vide une bouteille d'eau, elle va se remplir d'air. Donc une fois que vous allez mettre de l'ordre, ça va évidemment se remplir avec d'autres possibilités dans votre vie. D'essayer peut-être de vous faire un tout petit peu accompagner sur ce deuil, hein, de cette famille que vous n'avez pas eue à ce jour. Après, vous n'avez que 48 ans, hein. Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, quand vous l'autoriserez vraiment, et refonder une famille recomposée.
Oui, aussi.
Hein ? Il y a plein de possibilités, mais il ne faut pas les perdre de vue. Il faut s'autoriser, il faut se mettre en route.
Tout à fait.
Tout à fait ?
Tout à fait. Je suis d'accord avec vous.
Alors moi, je vous propose, comme pour Fabrice, parce que là, il y a du pain sur la planche, de nous rappeler dans quelques mois pour nous dire où vous en êtes, ce que vous avez mis en place.
Oui,
et s'il y a eu des bonnes surprises, avant pour l'été de toute façon.
Oui.
Parce que vous, oui, c'est ça, vous nous avez dit pour l'été.
Je laisse passer l'été et puis je rappellerai à ce moment-là s'il y a eu du changement.
Voilà, ou même cet été, a priori, on sera là, fidèle au poste.
D'accord.
Donc n'hésitez pas, Julia. Et n'oubliez pas que c'est vous aussi qui êtes l'initiatrice du changement.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est important. Oui. C'est nous, nous sommes au centre du dispositif. Tout part de nous et tout nous revient.
Oui, bah oui, de toute façon, j'aspire à du changement. C'était ça, au départ, l'objet de mon appel, à créer, maintenir le lien et créer le lien malgré tout, quoi.
Voilà, maintenir le lien déjà avec vos amis en leur parlant vraiment, et puis créer de nouveaux liens.
Aussi.
Voilà, mais je crois que vous y êtes. Vous avez très envie, en fait.
Oui, j'ai envie de changement. Je veux plus m'enliser. J'ai envie d'aller de l'avant.
Alors, on a une auditrice qui vous suggère la kinésiologie.
Ah, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la kinésiologie, c'est une technique de... C'est un outil de travail, alors qui ne va pas trop en profondeur, à mon sens, et que les kinésiologues qui m'écoutent me pardonnent, où on va interroger le corps. On va faire un petit mouvement de pression sur le bras tendu. On va mettre en place un petit un système pour savoir à quel moment il dit oui, à quel moment il dit non. Alors, il va dire oui quand le bras va céder, par exemple, sous la pression qu'on va exercer sur le haut du bras. Et quand il va résister, ça veut dire que c'est non. Donc, on va mettre en place ce petit protocole au départ pour voir comment il dit oui et comment il dit non. Et après, on va lui poser des questions assez précises sur est-ce que vous êtes prête, par exemple, à changer votre vie. Et là, c'est votre corps qui va répondre. Mais pour moi, ce n'est pas un outil thérapeutique.
D'accord.
Voilà.
Bon, bah écoutez,
mais en tout
peut-être
cas,
à explorer, on ne sait jamais.
Voilà. En tout cas, il y a plein de pistes à explorer pour créer votre nouvelle vie, Julia. Et je vous souhaite évidemment le meilleur dans cette nouvelle vie.
Bah, merci beaucoup, Valérie, et merci de votre écoute et de votre patience.
C'est normal, c'est tout à fait normal. On a aussi une auditrice qui m'a dit tout à l'heure merci d'être en direct le samedi. Je l'en remercie aussi, mais la Libre Antenne est toujours en direct du lundi au dimanche, de 22h à 1h du matin. On est toujours, toujours, toujours en direct, et quand ce n'est pas Olivier et moi, il y a forcément Roland ou Sana qui sont là pour être en direct. C'est le principe de la Libre Antenne. Je vous souhaite vraiment le meilleur, Julia. Et vous savez quoi ? On va passer une chanson de Véronique Sanson qui s'appelle « Chanson sur ma drôle de vie ». Et je vous souhaite une vie souriante.
Merci beaucoup, Valérie.
À bientôt.
Et bonne nuit.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. Je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? On parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres totems, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi
chanson sur ma drôle de vie. Véronique Sanson ce soir dans la Libre Antenne d'Europe 1.
La Libre Antenne d'Europe 1, 22h01, Valérie Darmon.
Bonsoir France.
Oui, bonsoir Valérie.
Merci.
Merci de m'avoir appelé. Effectivement, j'avais envoyé un message au sujet de Xavier.
Oui, Xavier qu'on a eu la semaine dernière.
Voilà, il y a quelque temps. Bah, oui. Le temps passe vite.
Oui.
Et j'avais apprécié la façon dont vous l'avez réconforté.
Merci beaucoup.
Et je pense que vous avez été très bénéfique parce que effectivement, il souffrait beaucoup depuis longtemps et vous lui avez simplement, certainement inspiré des pensées positives. Et j'espère qu'il continue à bien aller.
Ah, j'espère aussi, et en tout cas. On le salue s'il nous écoute.
Voilà. Et ça m'avait quand même inspiré des réflexions réalistes. Réalistes parce que j'avais bien entendu, et je suis souvent vos émissions, que j'apprécie beaucoup. Ce sont des ouvertures sur les autres. Et Xavier, si je me souviens bien, avait des possibilités professionnelles très positives et il a choisi de faire du parapente. Il a choisi de prendre des risques alors qu'il avait une promotion professionnelle très accessible. Et là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Quand vous aimez les citations, moi aussi, il y a une phrase de Hemingway que j'aime beaucoup, c'est dans Le Vieil Homme et la Mer. Dans la vie, il faut avoir de la chance, mais quand la chance arrive, il faut être fin prêt. Et c'est vrai.
Oui.
On a tous des occasions de chance.
Oui.
Il semble, et je vais peut-être paraître un peu sévère, que Xavier avait eu cette chance, cette promotion professionnelle durable qui impliquait toute sa vie. Et curieusement, il a choisi le risque. Et,
France, parce qu'à l'époque, il vivait, vous savez, jusqu'à ce que le drame arrive, on ne sait pas que, enfin, on ne vit pas avec cette idée que le drame peut arriver. Lui, il avait une manière de vivre à l'époque qui était qu'il prenait effectivement des risques calculés pour le parapente. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand c'est pas parce qu'on a des opportunités dans la vie qu'on va cesser, je sais pas, de pour les gens qui aiment le sport mécanique, de rouler vite sur un circuit, d'autres de faire des sauts en parachute. Ça fait partie en fait de son mode de fonctionnement et ça faisait partie de son mode de fonctionnement à Xavier avant qu'il ait cet accident dramatique avec lequel d'ailleurs il a tout perdu, mais pas son compagnon. Ce qui n'est pas rien.
Oui, c'est déjà beaucoup. C'est heureusement, ça lui est arrivé, il a gardé son compagnon qui l'accompagne vraiment.
Oui.
Mais
oui.
C'est une chose moi, que je ne comprends absolument pas. Ça ne vaut pas le coup. Quand on a une opportunité pareille, je me répète, mais on fait des choix. Le parapente, c'est extrêmement dangereux. Rappelez-vous quand même l'accident qui est arrivé à Pozzo di Borgo.
Oui, bien sûr.
C'est une vie détruite. Il faut quand même mesurer les plus et les moins. Est-ce que ça valait la peine de courir le risque du parapente ? Bien entendu, on est libre, on peut faire des choix, ça ne regarde que soi. Mais c'est quand même très grave.
Mais il y a des gens qui ont des profils comme ça, un petit peu borderline, ou qui aiment les sports extrêmes, ou qui aiment sentir cette adrénaline. Voilà.
Voilà, c'est une chose qui m'est assez étrangère, que je ne peux pas comprendre. Pour certaines raisons, parce que j'ai vu des exemples autour de moi. J'ai vu quelqu'un qui pratiquait le cheval, et qui est rentré après un accident de cheval complètement démoli et avec des ennuis de santé pour le restant de ses jours. J'ai aussi une collègue très heureuse dans ses fonctions. Et je me souviens encore de son appel téléphonique. Elle était tellement contente. Elle allait faire du ski. Bon, elle était ravie. Ce n'était pas la première fois. Et elle a eu un accident de ski terrible qui lui a compromis toute sa carrière.
Oui, mais dans ce cas, on ne fait plus rien, France. Parce que le ski, c'est quand même un sport aussi agréable à faire. Le cheval, on est en rapport avec l'animal. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ces cas-là, on ne fait plus rien.
On peut faire beaucoup de choses sans prendre de risques mortels.
Oui, mais la personne qui est partie galoper avec son cheval, peut-être qu'elle n'était pas... pour elle, elle ne prenait pas de risques. La vie est un risque, en fait, France. C'est ça que je suis en train
Je sais bien, mais moi aussi, j'ai fait du cheval. J'ai fait de l'équitation en Angleterre et en campagne, sur un cheval que je ne connaissais pas, sans selle. Et il est parti au galop dans la nature. Je me suis tenue à la crinière, mais c'était en pleine campagne. Et c'était un cheval quand même raisonnable. Je ne pesais pas lourd. On a passé un très bon moment tous les deux. Je me baissais pour éviter les branches. Il est revenu au point de départ, tout content. C'était un cheval qui avait envie de liberté. Moi aussi. Donc, je peux prendre ces risques-là si tant est que c'en était. Mais je n'ai pas con et surtout que le choix de la vie, surtout qu'il a reconnu qu'il s'en remettait mal, qu'il prenait depuis beaucoup de tranquillisants, etc.
Oui. Il avait très, très, très mal. Oui, il souffrait beaucoup dans son corps, oui.
Et là, c'est ce qui peut arriver. Et ça vaut la peine d'y réfléchir avant de se lancer dans le parapente. Et il prend tellement de médicaments qu'il ne peut plus conduire. J'espère que j'ai bien tout entendu, mais il a des réflexes qui sont moins longs. Je crois qu'il a parlé d'un incident dans son garage.
Oui. Oui, mais ce qu'il expliquait, c'est qu'il conduit très très peu et il conduit sur de très courtes distances. Alors vous allez me dire, même une courte distance peut suffire à créer un accident, par exemple, s'il est sous ces médicaments qui sont très forts, puisque ce sont des opiacés, à très haute dose. Mais il avait l'air assez raisonnable quand même, Xavier.
C'est encore un autre choix. Il choisit encore le risque. Et là, je ne suis pas du tout d'accord qu'il se mette en danger tout seul. C'est son choix, c'est son risque. Mais en conduisant une voiture sous l'emprise de médicaments, il met
en danger la vie d'autrui.
Il met en danger d'autres personnes non innocentes. Et c'est arrivé aussi à des amis qui conduisaient bien normalement. C'était des personnes âgées qui avaient besoin de leur voiture en campagne. Et malheureusement, à un carrefour, ils ont rencontré des gens qui ont brûlé tous les
stop.
Toutes les interdictions qui leur ont foncé dedans. Et ça a fait une destruction totale. Ça a fait toute une famille. Bon, je ne veux pas faire un tableau terrible. Mais ça m'est arrivé à moi aussi. J'étais jeune fonctionnaire j'avais acheté une voiture, une Fiat 850, qui me permettait de me déplacer plus facilement pour faire toutes les démarches parce que j'avais 27 ans et j'avais la responsabilité de créer un service départemental et ça m'obligeait à faire des allées et venues à titre personnel dans tout le département, bref, à agir beaucoup. Et un matin, j'avais pris le circuit habituel de mon domicile à mon lieu de travail, et c'était un parcours que je connaissais vraiment par cœur. Il y avait une montée, et au bout de la montée, un car j'avais ma petite Fiat 650 blanche à l'extérieur, rouge à l'intérieur, que j'aimais beaucoup et qui était toute neuve, je me suis arrêtée et boum, une voiture m'a percutée à l'arrière. Et le choc a été extrêmement important. Tout ce qu'il y avait dans la voiture s'est répandu. Moi-même, j'étais coiffée à ce moment-là avec un chignon de banane retenu par des épingles. Il y avait des épingles partout dans le coffre, dans la voiture. Et je souffrais beaucoup, le coup du lapin. Et heureusement, ma voiture a donc été propulsée vers l'avant par ce choc à l'arrière, très violent. Et j'ai eu quand même le réflexe de serrer les freins pour que ma voiture ne percute pas le poteau indicateur qui était au carrefour. Donc, j'étais contente après, parce qu'il faut être content de ce qu'on a réussi. J'étais contente malgré le choc. J'avais pas perdu connaissance, j'avais gardé tout mon sang-froid. J'avais eu le réflexe de freiner. Et la voiture percutante s'est quand même arrêtée. Il en est sorti deux jeunes femmes. Elles avaient fait la bringue toute la nuit. Elles revenaient le matin. Elles m'ont dit qu'elles ont perdu le contrôle de leur voiture et que, ben voilà, c'était comme ça. Voilà. Bon, ça aurait pu être plus grave. Je suis restée. Quelqu'un m'a emmenée tout de suite à l'hôpital. Il n'y avait rien de cassé. Mais j'ai eu des maux de tête, alors que j'ai jamais mal à la tête. J'ai eu des maux de tête pendant très longtemps. J'ai dû prendre un congé d'interruption alors que je me passionnais pour mon métier. Et en plus, la voiture était toute neuve, était très abîmée, vraiment très abîmée. Et bon, elle a été réparée. Il s'en est ensuivi, comme il arrive, des contestations parce que l'assureur des deux jeunes filles est revenu sur leur déclaration parce qu'il disait sur le moment, nous sommes responsables, nous avons perdu le contrôle de leur voiture, dans notre voiture, nous avons passé toute une nuit blanche, etc. Et puis, elles ont essayé de trouver quelque chose où je pouvais être en faute. Et mon assureur n'a pas du tout été à la hauteur, il ne s'en occupait pas du tout. Heureusement, j'avais un père avocat. Quand je lui ai dit, bah, ça ne s'arrange pas, il m'a dit, confie-moi le dossier et moi, je vais m'en occuper. C'est passé à l'audience et j'ai obtenu gain de cause.
Oui, ce que vous voulez nous dire, France, c'est que il faut évaluer les risques. Mais comme le dit Aline au 739-21, en traversant la rue, on peut se faire renverser par une voiture. Et Yvette rajoute au 739-21, le parapente, c'est non seulement un sport, mais aussi une manière d'être libre de se mouvoir dans les airs. Les accidents sont une fatalité due à un coup de vent malencontreux, comme on peut se faire renverser devant sa porte. Donc vous attirez l'attention sur le fait qu'il faut toujours évaluer les risques avant d'agir.
Effectivement, il ne faut pas se plaindre. Si quelqu'un veut faire des parapentes, qu'il fasse des parapentes. Si quelqu'un veut aller en mer quand la mer est déchaînée, non seulement il engage sa vie, mais il engage celle des sauveteurs. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. C'est ça qu'il faut voir. Je suis contre un comportement égoïste. Il se trouve que oui, j'agis en conséquence et avec prudence. Ça ne m'empêche pas de prendre certains risques, mais j'ai pesé le pour et le contre. Et je dois dire qu'après cet épisode-là, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre la conduite de ma voiture, alors que pourtant j'en avais besoin. Je vous dis, j'étais jeune fonctionnaire. Mes parents habitaient à 150 km de là et j'avais vraiment besoin d'une voiture. Et ce qui m'est arrivé et ce qui m'a sidéré en plein trajet, en pleine campagne, j'ai eu une crise de panique. j'ai eu une crise de panique, j'étais bloquée, je ne pouvais plus continuer. Et j'ai eu plusieurs crises de panique comme ça, tout de suite après l'accident.
Bah oui, vous c'était avez été choquée, oui, bien sûr.
Oui, oui, c'était le choc. On dirait maintenant, c'est post-traumatique.
Traumatique, voilà, oui, c'est ça.
Et à cette époque-là, ce n'était pas du tout courant. Donc, j'ai eu plutôt honte. Je n'en ai pas parlé. Bon, c'était un poste pour mes débuts. J'avais rempli ma mission. J'ai eu la chance, et je répète, dans la vie, il faut avoir de la chance. Et quand la chance arrive, il faut être fin prêt. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai reçu une liste de postes vacants, dont un poste à Paris qui me passionnait. C'était le poste qu'il ne fallait pas laisser passer. C'était le poste d'une vie. Donc, j'ai postulé. Je peux dire que j'ai fait des mains pour avoir ce poste au choix. C'était au choix. J'étais une parmi d'autres qui postulaient pour ce poste. Et je le voulais vraiment. Je le voulais vraiment. Ça valait la peine de donner du mal. J'avais un bon dossier. Et j'ai obtenu le poste. Et ça a été d'autant plus la chose de ma vie que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Voilà.
Magnifique. Merci beaucoup, France, de votre témoignage ce soir dans la libre antenne d'Europe 1. Un grand merci.
Donc, ça vaut la peine de s'épargner quelquefois.
De s'épargner des risques. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Pour soi et pour les autres.
Le bonheur est au coin du chemin. Mais je me permets de faire passer ce message-là. Attention aux tranquillisants qui réduisent les réflexes. On sait, et j'en ai parlé avec votre assistante, que les accidents de la route se multiplient.
Oui.
Donc il faut être prudent, parce que ce sont des vies brisées. Et j'ajoute, si vous permettez encore, que j'ai travaillé un certain temps dans l'étude d'avocat de mon père. J'ai eu entre les mains les dossiers après les accidents et c'est rajouté à la douleur une lutte avec certaines compagnies d'assurance qui nient les douleurs et ça me révoltait. J'avais en main des dossiers avec des personnes qui avaient des traumatismes crâniens et on disait c'est psychologique. Bon, c'est dans la tête, oui, c'était dans la tête, mais ce n'était pas psychologique du tout.
Oui, c'est donc, doublement injuste. En fait, c'est double peine. Parce qu'il y a l'injustice de l'accident qui n'est pas due à la personne qui se promène sur le trottoir, tout simplement. Et il y a l'injustice ensuite de la compagnie d'assurance qui ne reconnaît pas le traumatisme, en fait.
J'ai vu des dossiers extrêmement douloureux. Et heureusement que mon père était extrêmement pugnace et combatif. Mais ça ne devrait pas se passer comme ça en France. Pas du tout. Pas du tout.
Les choses ont un peu évolué quand même dans le bon sens. En tout cas, merci beaucoup France d'avoir appelé ce soir le numéro du standard 01 80 20 39 21 pour tirer ce signal d'alarme qu'on ne rappellera jamais assez. Donc c'est très bien. Voilà.
Je vous remercie. Vous avez réconforté les aviez qui en avaient besoin et moi j'ajoute la note réaliste qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre mais qui peut sauver des vies.
Absolument. Un grand merci à vous. Prenez soin de vous.
C'est ce que je fais. Et des autres aussi. Et le parapente, n'oubliez pas, c'est un sport extrêmement dangereux.
Tout à fait. Merci beaucoup, France. Merci beaucoup.
Merci à Poggio di Borgo. Ça peut ouvrir sur... autre chose, ça donne un autre sens à la vie, mais tout le monde n'a pas les moyens qu'avait Poggio di Borgo.
C'est vrai aussi, vous avez tout à fait raison de le souligner.
Avec son institution, Simon de Sirène, etc., ses sentiments altruistes.
En tout cas, toujours être en conscience dans les actes que l'on pose. Voilà, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire ce soir. Un grand merci France, merci beaucoup, prenez soin de vous. Au revoir.
N'ayez pas peur. Et merci aussi. Bonne nuit. Merci de m'avoir appelé.
Merci. Au revoir.
cadet, voilà qui laisse deviner que tout se décide, décide, tout se décide, décide. Maquillée comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vide, vide, mains sont livides, vide, vide. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense. Ton visage ne sera jamais entier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Patience comme certitude, collée à trois fils, 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 liée à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station.
And the Queen ce soir dans la libre antenne d'Europe 1 qui souhaite maintenant qu'on l'appelle Chris avec sa chanson Saint-Claude issue de son tout premier album.
La libre antenne d'Europe 1, 22h-1h, Valérie Darmon.
Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous à 0h44. Merci beaucoup.
Merci de me prendre. Voilà, je vous appelle parce que j'aurais aimé vous parler d'une maladie relativement rare, l'amylose, et lancer un appel. Alors, je ne sais pas ce que je fais, je peux présenter un peu rapidement l'amylose.
Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. L'amylose, c'est le nom de la maladie dont vous voulez nous parler et dont vous êtes porteur.
J'en suis porteur. En fait, il existe différents types d'amylose. Des amyloses dont je ne parlerai pas parce que je les connais moins bien, liées à des désordres un peu immunologiques ou infectieux. Par contre, moi, je suis porteur d'une amylose héréditaire qui naît d'une mutation donc sur le code génétique et qui engendre une protéine anormale qui est pourtant indispensable dans le corps et qui transporte en fait l'hormone de la thyroïde et la vitamine A. Et en fait, cette protéine anormale est mal éliminée par le corps quand le corps en a besoin. Elle s'accumule, elle finit par créer des désordres importants. Donc c'est une maladie héréditaire et qui produit des effets différents. Il existe de cette maladie héréditaire une centaine de formes différentes. Et malheureusement, dans toutes ces formes, j'ai une forme relativement rare. Et je peux en parler un petit peu, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, oui, parce qu'on ne connaît pas cette maladie. C'est comme hier, quand notre auditrice a attiré notre attention sur l'insomnie familiale fatale. On n'avait jamais entendu parler non plus de cette maladie. Voilà. Donc, quels sont les symptômes, Serge ?
Alors, les symptômes peuvent être variés. Alors, je parle de l'amylose héréditaire.
Oui, hein. Oui, oui.
Donc, il peut y avoir des symptômes cardiologiques, c'est-à-dire... au départ, si vous voulez, les gens en général ont des problèmes de fatigue, des problèmes de perte de poids, d'essoufflement et un épaississement des ventricules du cœur, donc, dû à l'accumulation justement de cette protéine dont je parlais. Et puis, donc, ça c'est une forme cardiologique. Et puis, il existe des formes neurologiques, comme j'ai, où l'accumulation entraîne une détérioration des fibres nerveuses, une perte de la sensibilité des extrémités, et ensuite, je dirais, une invalidité, puisque je suis en fauteuil depuis 4 ans. Voilà.
Et vous avez quel âge, Serge ?
Alors j'ai la chance d'avoir une forme qui apparaît relativement âgée. J'ai 76 ans actuellement. Elle est apparue autour de 55 ans. C'est une forme qui apparaît à partir d'une cinquantaine d'années et qui vous fait perdre la sensibilité des extrémités. On ne sent plus grand-chose. On ne sent plus le froid, le chaud, les coupures, voilà.
Et vos parents étaient porteurs de cette maladie ? Ils l'avaient développée ?
Alors justement, le problème personnel, c'est que je n'ai pas d'informations sur les ascendants et je n'ai jamais entendu parler de cette maladie dans la famille. Et donc, c'est vrai que je suis un peu démuni en face d'une maladie qui est très rare et sur laquelle j'ai très peu d'informations. Et mon souhait, c'était de savoir si mon témoignage interpelle un certain nombre de personnes qui possèdent ma mutation et si c'était possible d'entrer en contact avec elles.
D'accord. Donc, si des gens nous écoutent, des auditrices, des auditeurs qui connaissent quelqu'un ou qui sont eux-mêmes touchés par l'amylose, qu'ils rentrent en contact avec nous et on vous donnera évidemment les coordonnées comme on le fait tout le temps.
C'est une amylose de forme neuropathique. Et pour être très précis, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est la précision, elle est de la forme, donc après séquençage génétique, on dit TYR, TYR, 116, SER, SER. Voilà.
D'accord.
Donc, s'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un, j'aimerais échanger sur le vécu, sur l'évolution, sur...
J'en appelle aussi aux médecins, Serge, j'en appelle aussi à des médecins qui peut-être seraient en pointe sur ce sujet-là, même si vous êtes suivi, bien sûr.
Les médecins en pointe, ils existent un peu dans les grands centres, moi je dépends de l'Isère, de Grenoble, mais bon, il en existe à Paris, un peu partout. C'est vrai que s'il existe une forme... sans cesse, je suis intéressé. Et si par hasard leur patient accepte de me contacter, je veux bien effectivement pouvoir en parler.
Vous avez été voir sur les forums ou pas, Serge, quand même ? Est-ce qu'il existe des forums ?
J'ai beaucoup, beaucoup parcouru Internet. Et puis je suis adhérent d'une association qui s'appelle Amylose France, qui est à Marseille et que j'apprécie beaucoup. parce que il y a des gens qui se démènent beaucoup, qui font beaucoup de choses, qui participent à des colloques pour faire connaître un petit peu la maladie et puis essayer de diffuser un maximum d'informations. Et puis également qui permettent aux malades de... Enfin, on est très bien accueillis, on est très bien renseignés. Tous les mois, on a une rencontre vidéo par vidéotransmission avec des échanges, parfois entre malades et médecins. Et c'est vrai que pour l'instant, ben, je n'ai pas trouvé de gens qui présentent ma forme. Et j'aimerais beaucoup pouvoir rencontrer quelqu'un. Je suppose que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Et il y a combien de personnes en France qui sont atteintes de... Alors la vôtre, on ne sait pas, puisque vous n'avez rencontré personne.
En France, pour ce qui est de la forme neuropathique, je crois que c'est à peu près 500 cas par an. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près ce nombre-là.
Voilà. Et les premiers symptômes, Serge, c'est quoi?
Alors les premiers symptômes, pour moi, ça a été... des fourmillements dans l'extrémité des orteils et puis la perte de sensibilité progressive des orteils, du pied, de la jambe. Et puis maintenant, au bout d'une dizaine d'années, une perte des extrémités hautes, c'est-à-dire des doigts, des mains, et puis une perte de la motricité.
Voilà. Oui.
Oui.
Et on peut retarder avec des médicaments l'effet de la maladie?
Alors, il existe beaucoup de médicaments. Moi, je bénéficie du dernier médicament qui est sur le marché. Et bon, ben, j'en suis à la cinquième injection. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui en vivent quand même. Alors, il y a des formes qui apparaissent très tôt, autour de la trentaine. Moi, je suis dans une forme qui apparaît plutôt tardivement, puisqu'elle est apparue à 65 ans, enfin, disons qu'elle apparaît après 50 ans. Voilà.
Donc, à quel moment, Serge, on s'inquiète sur ces symptômes, en fait? Est-ce qu'il y a un symptôme plus qu'un autre qui peut mettre sur la voie? Parce que comme on ne connaît pas du tout cette maladie orpheline extrêmement rare...
Ben, disons, ce qui peut inquiéter, c'est les problèmes cardiaques, essoufflement, hypertrophie du ventricule, par exemple, dans un examen, et puis perte de poids et grande fatigue, ou bien pour la forme plus neurologique, ben, ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire la perte de sensibilité, puis la perte de motricité, quoi.
Et vous vivez seul, Serge?
Non, je suis marié, je suis suivi au niveau d'un CHU, mais c'est vrai que cette forme particulière qui me concerne, eh bien, je n'ai pas l'occasion de rencontrer quelqu'un, même en ayant fait appel à l'association française Amylose France. Hein. Et je sais que... Bon, dernièrement, je les ai appelés, ils ont fait le tour et ils ne pouvaient me proposer personne. Donc, je lance un appel au niveau national. Je sais que de l'autre côté, lance un appel par l'intermédiaire de Facebook. Et ben, j'espère pouvoir rencontrer quelqu'un.
Oui, nous, on le mettra aussi sur la page Facebook de l'émission qui est suivie par 20 000 personnes. Hein. On fera aussi cet appel, je regarde Nicolas qui va s'en charger, sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe 1.
Je peux vous donner les coordonnées de l'association pour les gens qui auraient été interpellés. Et que c'est vrai que c'est une association que j'apprécie beaucoup, avec des gens qui se démènent et qui sont très attentifs et qui renseigne bien. Quoi.
Très attentionné. Voilà. Alors, redites-nous le nom de l'association. On a encore quelques minutes, quelques secondes.
L'association, c'est Amylose France. Elle se trouve à Marseille. Et donc, contact.amylose.asso.fr. Et je peux même donner un numéro de téléphone. Je ne sais pas si ça vous intéresse.
Vous le 04. Allez-y, on ne le donne pas habituellement.
Le 04 91 81 17 16.
Très bien. Attendez,
j'ai oublié quelque chose. 04 91 81. Non, 17-7.
Voilà. On va de toute façon le rechercher et mettre tout cela sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup Serge de nous avoir appelé pour lancer cet appel. Un grand merci à vous.
Eh bien, merci. Et puis...
Un grand
voilà.
Merci.
Et puis, si quelqu'un a envie d'avoir quelques informations...
Qu'il n'hésite pas à vous contacter.
Je suis prêt à lui répondre, voilà.
Et nous, on donnera votre contact aux personnes qui sont demandeuses. Un grand merci, la libre antenne, c'est cela, c'est s'entraider. Voilà. Merci beaucoup,
merci.
Serge. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout pas. Ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour.
De France Gall à Michel Berger ce soir dans la libre antenne d'Europe 1, la déclaration d'amour et les mots, Nicolas Caro les met à l'honneur dans La Voix et Livre tous les dimanches de 19h à 20h et ce dimanche il vous emmène dans la bibliothèque.